Blanche-Neige et sans famille sont sur un bateau.
Tu évoquais l'image négative des nains souvent véhiculée par le cinéma autrefois. Je me rappelle parfaitement du personnage de Miguelito Loveless, l'infâme ennemi de James West dans Les Mystères de l'Ouest. Ce n'est plus forcément aussi négatif et caricatural aujourd'hui. Des films comme Willow et Les Kaïra, des séries telles que Game of Thrones, NCIS, Los Angeles et bien sûr Joséphine Ange Gardien offrent d'autres représentations bien plus positives. À noter d'ailleurs que, d'après ce que j'ai pu vérifier, il n'existe pas dans le monde d'autres personnages principaux de petite taille dans une fiction récurrente, à part toi. Quel regard portes-tu là-dessus?
Le cinéma, comme la télévision, ont commencé par s'inspirer de l'inconscient collectif avant de le dépasser pour désormais le façonner. Il est vrai que l'image des gens de petite taille s'est simplifiée. On est un peu plus loin de la caricature que par le passé. Le spectre de Blanche-Neige et les sept nains s'est un peu estompé. Mais même si l'on trouve aujourd'hui une diversité croissante de représentations, le chemin est encore long avant d'arriver à un équilibre. J'imagine que chaque porteur de différence pourrait dire la même chose. Certains rôles prennent aussi leur sens grâce à ce qu'en font leurs interprètes. Il y a des acteurs qui choisissent d'incarner l'ironie, comme dans les films Austin Powers. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de ce qu'il est, mais parfois, à mon humble avis, certains ont un peu tiré contre leur camp. En jouant sur les clichés, on les renforce. Mais je n'ai pas à commenter ce que font des collègues comédiens que je respecte complètement. Si on regarde bien, il n'existe quasiment pas d'histoire dont les nains sont les personnages principaux. Il y en a sans doute davantage avec des enfants abandonnés qu'avec des nains.
Dans la littérature existent effectivement de nombreux personnages d'enfants abandonnés, inversés ou échangés. Nous sommes un moteur colossal. Le premier qui me vient, emblématique, c'est Sans famille, d'Hector Malot, qui a beaucoup fait pour le mythe. Nous sommes souvent ramenés à une douleur projetée. Les enfants abandonnés sont généralement synonymes de solitude et de séparation douloureuse, qui débouchent immanquablement sur des destins sordides. Après, on joue sur les clichés pour les utiliser à des fins dramatiques. C'est un des rares sujets homogènes au sein des différentes mentalités et cultures partout dans le monde. D'habitude, les Asiatiques ne traitent pas les choses comme les Européens, et encore moins comme les Américains. Cependant, le ressenti face à l'abandon de l'enfant est assez universel.
Les rares fois où j'ai vu des films où figuraient des personnes de petite taille, elles avaient des rôles secondaires. En ce sens, une nounou pas comme les autres marquait une première parce que, pour la première fois, un personnage de petite taille tenait le rôle principal. À un moment, le bruit a couru que j'allais rejoindre la série Game of Thrones. C'était une drôle de rumeur, mais si elle avait été fondée, j'aurais préféré être la fiancée de Kit Harington plutôt que celle de Peter Dinklage. Encore mon fameux rejet des ghettos. Quand je suis arrivée dans ce métier, je ne voulais surtout pas me laisser enfermer dans un cliché. Nous en avons déjà parlé, mais on a vu trop de gens comme moi tenir forcément le rôle du fourbe, du méchant ou du personnage maléfique, comme Pierral tout au long de sa carrière, ou comme Roberto dans Angélique Marquise des Anges. Tous ces personnages qui ne couraient pas assez vite et qui, à certains moments, avaient ce regard malveillant. À l'époque, les personnes de petite taille étaient presque à chaque fois des hommes. Même maintenant, il n'y a pas de femmes de petite taille. C'est ainsi. C'est un truc à part. Il n'y a personne chez les filles. Même Linda Hunt, l'actrice qui jouait dans L'année de tous les dangers, le film de Peter Weir, où d'ailleurs elle interprétait un homme, un rôle pour lequel elle a remporté un Oscar, et qui joue maintenant dans NCIS Los Angeles, n'est pas atteinte d'achondroplasie. Elle n'est simplement pas très grande.
Quand tu étais jeune, y a-t-il un personnage de cinéma, de télévision ou de roman que tu aurais voulu être ?
J'aurais adoré être une héroïne de comédie musicale. C'est récurrent chez moi. Gene Kelly, Fred Astaire ou Shirley MacLaine ont pour moi tous les talents. J'aurais voulu avoir moi aussi de multiples facettes, être comme eux, capable de bouger, de danser, de faire ce qui pour moi constitue le véritable cinéma américain, les comédies musicales. Mais c'est génial de voir que cette mode-là semble revenir avec La La Land.
Qu'est-ce qui t'inspire tant dans les comédies musicales ?
Le fait que ces films, comme tes livres d'ailleurs, entraînent les gens hors de leur vraie vie, hors de la banalité et du quotidien, pour les transporter ailleurs, là où ils ressentent plus fort. J'adore quand ça bouge, quand le rythme de la musique épouse celui de la vie et des sentiments. C'est un mélange visible d'émotions et d'énergie. C'est un moment de rêve, comme lorsqu'on lit un bouquin ou qu'on regarde un film qui se termine bien. On sait que ce n'est pas forcément la vie, mais c'est ce qu'on essaie d'en faire. Qu'elle soit belle.
Au moment où tu te rêvais en Shirley MacLaine, étais-tu consciente que tu n'avais pas ses jambes et que, autre handicap, tu n'étais pas aux États-Unis? Comme les gamins qui se rêvent en Rambo et en Macarure.
Je n'ai pas raisonné en termes d'obstacles, mais d'envie. On se dit, je vais le faire à ma façon. Déjà, quand j'étais jeune, les gens me regardaient en se disant que j'allais morfler au fur et à mesure que j'avancerais dans ma vie et ma carrière. De façon consciente ou inconsciente, je suis passée de mon envie d'être Shirley MacLaine à quelque chose de plus facile au niveau de l'énergie et de ce que je pouvais apporter. Être moi. La rencontre avec Lynn Renault a également été importante pour moi. Au début, je ne m'identifiais pas du tout à elle. Et puis, un soir, je suis tombée sur un documentaire sur « La petite demoiselle d'Armentières ». Et j'ai pris conscience de son parcours vraiment extraordinaire. Je l'ai découverte humainement et professionnellement. Elle a fait quelque chose d'incroyable en gardant son identité, son accent frenchy, sa gouaille, sans tricher. Sans se couler dans le moule de toutes ces femmes refaites, en assumant ce qu'elle était. C'est pour ça qu'elle est encore là à près de 90 ans. Elle a aussi un lien affectif énorme avec les gens. Elle a su dépasser le stade où on fait son job pour devenir quasiment quelqu'un de la famille, pour tout le monde. Comme toi, elle lit tout son courrier et y répond. C'est une femme que j'adore. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué comme exemple? Est-ce que tu as rêvé en admirant des héros de cinéma?
Personne sur un écran. Dans la vraie vie, j'aimais beaucoup l'humour de mon oncle maternel, Charles Juel. Il vivait à Saint-Lô avec sa femme, adorable et si frêle, au-dessus d'une boulangerie. Le parfum des viennoiseries et du pain chaud qui montait du fournil dès l'aube m'a beaucoup marqué. Je m'ennuyais chez eux. Il n'y avait pas d'enfants, on devait mettre des patins pour ne pas salir les parquets. On marchait à deux à l'heure alors que j'avais envie de courir. C'était terrible. Alors je sortais dans la cage d'escalier et la cour, et j'y restais pendant des heures, entre deux visites à la famille. J'inventais des histoires, j'observais les gens qui passaient. Je pense que cela a beaucoup compté dans ce que je suis devenu, y compris pour « Demain j'arrête ». Charles était coiffeur et barbier. Il avait de grands fauteuils dans lesquels on disparaissait presque en s'y asseyant. Avant chaque rentrée scolaire, il me coiffait. À la fin de la guerre, Charles était revenu de sa captivité avec une jambe invalide. Malgré ce qu'il avait traversé, il avait l'élégance de poser un regard léger sur le monde, gardant le pire pour lui-même et déroulant un tapis rouge d'humour et d'attention délicate aux nouveaux venus dont j'étais. Les personnes avec qui j'ai eu la chance de vivre et à qui j'ai posé beaucoup de questions, je devais être épuisant, m'ont bien plus inspiré que des personnages de fiction, même remarquablement interprétés. Évidemment, étant un jeune garçon, j'étais fasciné par les héros, les flics, les militaires, les espions. Mais au final, le côté torturé, seul, me parlait sans doute davantage. Je ne me souviens pas, étant enfant, de m'être projeté dans des personnages vus au cinéma ou à la télévision, car aucun n'occupait la fonction que j'avais le plus envie de remplir. Je me voyais toujours dans l'ombre, et lorsque j'ai compris que c'était des gens bien réels qui fabriquaient les films, j'ai eu envie de les rejoindre. Je voulais contribuer au travail d'équipe qui donnait naissance aux rêves. Mais être dans la lumière, à l'écran, à l'image, ne m'a jamais branché. Peut-être par manque de confiance en moi. Ce que je voulais, c'était créer de l'émotion, rapprocher les gens dans un même sentiment. Peu de personnages de fiction font cela. Par contre, dans la réalité, ils sont nombreux, et c'est une chance.